L'œcuménisme en chemin. Une émission proposée par le groupe œcuménique de Bayonne. Aujourd'hui, pour l'œcuménisme en chemin, nous recevons Olga Astorg. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes orthodoxe, vous connaissez le père Georges Ashkoff, qui est donc le prêtre orthodoxe de Biarritz, et vous résidez à Albi, dans le Tarn, et vous êtes iconographe. Alors c'est quoi une iconographe ?
Donc, iconographe, l'iconographie, c'est une art sacrée. Et ce n'est pas une peinture. Et pour devenir iconographe, il faut avoir la bénédiction d'une prêtre orthodoxe. Et quand j'étais étudiante à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, j'ai restauré une église orthodoxe avec mon professeur de Beaux-Arts. Et le prêtre, pendant la restauration, nous expliquait qu'il faut faire la prière avant la restauration. Parce que ça s'appelle art sacré, ce n'est pas une art. Et on ne fait pas la peinture, c'est d'abord la prière. Comme ça, j'ai compris que art sacré, c'est quelque chose qui me correspond absolument bien. Et j'étais bénie pour devenir une iconographe.
Vous avez fait l'école des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, c'est ça ?
Oui, oui.
Voilà, donc vous êtes mondialement connue comme iconographe.
Oui.
Alors comment on devient iconographe ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de l'art sacré ?
Tout ce que je peux dire, que art sacré, c'est le grand lien avec la liturgie orthodoxe. Et par exemple, beaucoup des icônes orthodoxes sont représentées de la fête orthodoxe et elles expliquent le texte orthodoxe ou prière pendant la messe orthodoxe. Et aussi, on a dit qu'une icône, c'est un livre. Il faut apprendre à lire les icônes. Et je travaille à l'université à Albi pour donner les cours, explications comment lire les icônes. Parce que dedans des icônes, il y a beaucoup de symbolisme. Par exemple, le geste de les icônes, c'est le geste ancien, antique, quand, par exemple, orateur, da? Ça veut dire que c'est les gens qui parlaient devant le peuple et avec le geste des mains, ils ont fait les signes. Et les icônes, ils emportent les signes antiques. C'est très intéressant apprendre à lire le geste dans les icônes et par la couleur aussi, par le symbolisme de couleur, on peut comprendre qui devant nous, qu'est-ce qu'elle veut dire.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous faites une icône ? Donc, si j'ai bien compris, déjà, vous commencez par prier.
Oui, c'est ça. Donc, si, par exemple, quelqu'un... Des fois, on retrouve les gens qui disent que ça m'intéresse toucher les techniques de les icônes du premier siècle. C'est les icônes de Byzance, да, c'est notre base. Mais je ne veux pas prier avant. Et bien sûr, on ne peut pas faire une icône sans la prière, c'est impossible. C'est vrai que... Pour faire une icône, il faut bien se préparer dedans. Ça veut dire que les iconographies, c'est comme une prière, c'est une grande concentration. Et pour la prière, да, il faut avoir le silence, la paix. Et pour la faire une icône aussi, il faut être bien dedans.
Alors, une icône, elle est réalisée en quelle matière ? C'est une plaque de bois sur laquelle vous peignez ? Vous pouvez nous expliquer un peu ?
C'est une... Da, normalement, on a choisi c'est la cyprès. Cyprès, c'est la plus forte bois qui insectes ne mangent pas. Pour nous, c'est très important de choisir le bois sec, bien sec. Il faut attendre longtemps quand il sèche pour voir les défauts du bois. Après, c'est très important pour nous... Poser le plâtre blanc avec de la peau de col de lapin. C'est une sorte de plâtre avec la craie qu'on pose sur le bois en signe de croix. Ça, c'est très important aussi. Et juste après, on peut commencer à faire une image. On grave avec le graveur, c'est une spéciale aiguille, sur le plâtre, l'image. Et juste après, on pose la terre d'Arménie, да, où ça s'appelle assiette en France. L'assiette, c'est une sorte de la terre rouge. Et après, on pose sur la terre rouge le dorure. Donc, et quand on a fini de poser les feuilles d'or dans le banquette carade, juste après, on écrase le pigment naturel. Le pigment naturel, c'est la pierre précieuse qu'on ramasse de la nature. On le écrase, on le mélange avec le jaune d'œuf et comme ça, on prépare couleur. Pourquoi cette technique on utilise? Parce que cette technique, elle vient de les icônes du premier siècle. Par exemple, les icônes qui sont dans le musée maintenant ou dans le monastère Mont Sinai, da, c'est le monastère de Sinai, au monastère de Mont Sinai, dans le désert, en Égypte, il y a la plus grande collection de les icônes du premier siècle, les icônes d'époque de Byzance. Et comme ça, on, les scientifiques ont analysé comment ils ont préparé le pigment, comment ils ont mélangé avec le jaune d'œuf et pourquoi la peinture à la tempéra à l'œuf est tellement résistante. Par exemple, on voit les icônes du premier siècle absolument avec très belles couleurs, ils n'ont pas abîmé. Et la qualité de cette technique nous permet de faire cette art parfait, comme je peux dire, art de la icône.
Olga Astorg, je pense qu'une des icônes les plus connues par les gens, c'est l'icône de la Trinité de Roublev, André Roublev, qu'il a faite entre 1410 et 1427. Vous, quelle est votre icône préférée et quels sont les personnages que vous préférez peindre?
Oui, bien sûr que la Trinité de Roublev, pour nous, c'est la base. Tant que Roublev, il a vu les icônes du premier siècle, il a vu l'icône de Byzance, et lui, il était beaucoup inspiré par la première peintre de les icônes. Et Roublev, il était moine, il a passé sa vie dans le monastère. Son âme, vous savez qu'on a dit que quand on voit les icônes, on comprend qui est le peintre, qui le fait cette icône. Et quand on voit les icônes d'André Roublev, ils sont magnifiques, ils sont très très fins, les couleurs transparentes, tout harmonie. Harmonie dedans de les icônes de Roublev. On a envie de prier devant les icônes de Roublev. Et ça, c'est pour nous le plus haut exemple. Bien sûr que moi, je préfère répéter l'iconographie de Roublev et les icônes du monastère de Mont Sinai en Égypte, comme j'ai déjà dit, qui est la plus grande collection de icônes de Byzance. Donc, ça veut dire que mes yeux, ils sont toujours vers le Roublev et vers l'icône de Byzance. Mais bien sûr, pour moi, c'est important la Vierge Marie qui s'appelle Humilité. Da? Chez vous, c'est Tendresse. En Europe, ça s'appelle la Vierge Marie de Tendresse. Ça, c'est une des premières icônes du premier siècle qui me touche personnellement parce que je suis maman et j'aime beaucoup la relation proche avec les enfants. Et sur les icônes de la tendresse, on voit que la Vierge Marie, elle touche le joue de Jésus. Ils sont très proches et ça, il y a beaucoup de sentiments entre eux. Et voilà, ça c'est mon icône préférée.
Un grand merci à vous, Olga Astorg, de nous avoir parlé donc de votre métier. Vous êtes iconographe, donc comme vous l'avez dit, vous priez avant de réaliser chaque icône. Et comme je le disais aussi, vous habitez à Albi dans le Tarn, mais vous êtes d'origine russe, on l'aura entendu à votre accent, et vous êtes de Saint-Pétersbourg, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et vous avez fait donc vos études d'art à Saint-Pétersbourg.
Oui, mes icônes à l'église à Biarritz. Donc, ça veut dire que mes icônes sont toujours présentées dans la boutique de l'église Saint-Alexandre de Neva à Biarritz.
Merci beaucoup. Et donc, je rappelle que vous appelez Olga Astor, que vous êtes iconographe et qu'on peut voir donc vos œuvres, vos icônes à Biarritz, à l'église orthodoxe. Merci beaucoup.
Merci à vous.
L'œcuménisme en chemin. Vous venez de suivre une émission proposée par le groupe œcuménique de Bayonne.